sur efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Sandrine Mercier.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Tout le monde a peur du cancer, de l'infarctus, du sida, mais personne ne pense aux maladies du rein. Et pourtant, près de 600 millions de personnes dans le monde en sont atteintes. Sans véritables symptômes, les maladies rénales sont souvent identifiées trop tardivement. Un tiers des insuffisants rénaux ne sont diagnostiqués qu'au stade terminal, au moment où la dialyse s'impose en urgence. Alors, quels sont les ennemis de nos reins? Quand et comment se faire dépister? Quels sont les moyens de prise en charge? On en parle aujourd'hui à l'occasion de la 13e semaine nationale du rein qui se déroule jusqu'au 10 mars. C'est organisé par l'association France Rein et ça tombe bien, car jeudi 8 mars aussi, c'est la journée mondiale du rein. Et en même temps, c'est la journée internationale de la femme, ça c'est plus connu. Et du coup, pour cette édition, le thème qui réunit les deux en un, on va parler du rein et de la santé des femmes, car les femmes développent des complications spécifiques. On en parle aujourd'hui avec le professeur Bruno Moulin. Bonjour professeur.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Comment allez-vous à Strasbourg?
Très bien. À Strasbourg, il fait à nouveau beau et chaud. Voilà.
Vous êtes le président de la Société de Néphrologie. Vous êtes au service de néphrologie et transplantation aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et en duplex donc de Strasbourg. Merci aux équipes de France Bleu Alsace de vous accueillir. Vous êtes avec nous donc pour répondre aux questions des auditeurs au 33 1 84 22 75 75. Ils sont déjà nombreux également sur Facebook. Beaucoup à faire dans les pays d'Afrique. En deuxième partie, nous irons à Dakar, au Sénégal, avec le professeur Abdou Niang, qui est médecin colonel, chef du service de néphrologie de l'hôpital d'Al-Aljam. Et il est également président de la section Afrique de la Société internationale de dialyse péritonéale. Le drame, le grand drame de ces maladies du rein, c'est qu'on ne les voit pas venir, professeur Bruno Moulin.
Oui, tout à fait. C'est un tueur silencieux, la maladie rénale. Et la plupart de nos patients, comme vous l'avez évoqué, arrivent à un stade assez tardif de l'évolution de la maladie, raison pour laquelle nous prêchons pour une extension du dépistage des maladies rénales. Et je remercie d'ailleurs toutes les équipes de France Rein qui se lancent cette semaine dans des campagnes de dépistage, notamment avec la méthode des bandelettes urinaires.
Donc on fait pipi sur ces bandelettes et c'est comme ça qu'on peut savoir tout de suite quel genre de problème on peut avoir au rein.
Alors ça peut donner une forte indication de la présence, de l'existence d'une maladie rénale en détectant notamment de l'albumine ou du sang dans les urines, voire également une infection urinaire ou éventuellement du sucre. Donc infection urinaire, diabète ou maladie rénale, la bandelette est très rentable.
Alors on dit souvent que les femmes sont moins touchées que les hommes par l'insuffisance rénale. Vous êtes d'accord, professeur Bruno Moulin?
Alors c'est à la fois vrai et faux, c'est-à-dire que la prévalence de la maladie rénale est en fait beaucoup plus élevée chez les femmes que chez les hommes, notamment en France, mais dans beaucoup d'autres pays. À peu près 10% de la population féminine contre 5% de la population masculine en France. Mais ceci est lié à plusieurs raisons. D'une part parce que les femmes sont exposées à un certain nombre de facteurs favorisants qui touchent moins les hommes, comme les infections urinaires, comme les séquelles d'une grossesse compliquée, comme certaines maladies de système, et puis également du fait d'une maladie à laquelle on peut pas grand-chose, c'est que le vieillissement est quand même plus important chez les femmes que chez les hommes, c'est-à-dire elles vivent plus longtemps et donc elles ont le temps de développer des maladies rénales chroniques.
Ouais, parce qu'il y a vraiment un lien entre effectivement la vieillesse et le rein.
Néanmoins, il faut ajouter que il y a plus d'hommes, et c'est ça le paradoxe, plus d'hommes qui arrivent au stade de l'insuffisance rénale terminale et à la nécessité d'un traitement de suppléance.
Donc il y a plus d'hommes jeunes, effectivement, qui sont atteints. Alors on va tout de suite prendre une femme, justement, qui nous appelle, c'est Salimatou de Conakry, en Guinée. Bonjour Salimatou.
Bonjour Sandrine.
Merci d'avoir composé le 33 1 84 22 75 75. On vous écoute.
Merci, c'est Salim Matou depuis Guinée-Conakry. J'étais en grossesse il y a un an. J'ai accouché, ça fait un mois, 13 mois, je peux dire, le 2 février 2017. J'avais eu la préclampsie, donc j'ai eu des pertes de protéines dans les urines. Et depuis ça, ça fait 13 mois, ça persiste toujours. À chaque fois, je fais des contrôles, mais ça persiste toujours. Mais on m'a dit de boire beaucoup d'eau et surveiller, continuer à surveiller, de ne pas être sous traitement. Mais moi, mon inquiétude, est-ce que c'est normal que ça persiste après l'accouchement, un an après l'accouchement? Quels sont les effets, ou bien à la longue, ou bien... En tout cas, ça m'inquiète si ça va continuer ou pas.
Mmh. Oui, Salimatou, vous inquiétez de savoir si ça peut dégrader vos reins à la longue,
oui,
après un an.
À la longue, oui, après un an de rejet de protéines.
Alors, restez avec nous, il y a le professeur Bruno Moulin qui va vous répondre.
Alors bonjour Salimatou. Alors effectivement, vous posez une question qui est très spécifique de la relation entre la maladie rénale et les femmes, à savoir la détection d'une maladie rénale au décours de la grossesse. Alors il y a deux possibilités. Où il existait une maladie rénale au préalable avant la grossesse, et je rappelle que au cours du suivi prénatal, il faut toujours justement essayer de détecter une maladie rénale par la méthode des bandelettes dès la première consultation prénatale. Et dans ce cas, la grossesse peut aggraver la maladie rénale préexistante. La deuxième possibilité, c'est que effectivement la grossesse a été un mode de déclenchement d'une maladie rénale, et c'est vrai que après plusieurs mois de persistance des protéines dans les urines, il faut prendre un avis spécialisé si possible et faire au moins un dosage de ce qu'on appelle la créatinine, qui permet en fait de détecter une éventuelle insuffisance rénale.
Donc là, Salimatou, elle boit 2 litres par jour, ça fait un an. Est-ce que ça peut durer? Est-ce qu'elle doit s'inquiéter?
Elle doit boire à sa soif. Ce qu'elle boit n'aura pas de conséquences particulières sur l'évolution d'une maladie rénale sous-jacente. Non, ce qui est important, c'est qu'elle puisse éventuellement être prise en charge par un médecin qui évalue et puisse éventuellement la rassurer, hein. Peut-être qu'il y a très peu d'albumine dans ses urines et que sa fonction rénale est encore normale, mais il y a une nécessité de prendre un avis localement, si possible, et d'évaluer sa fonction des reins.
Merci beaucoup, hein, Salimatou, pour votre question. Vous êtes satisfaite de la réponse?
Oui, est-ce que je peux... La dernière question, parce que je suis suivie par un néphrologue.
Ah bah c'est parfait.
Qui me suit à chaque 3 mois, c'est elle qui m'a dit de boire beaucoup d'eau et de rester sur suivi, comme il y a un facteur déclencheur qui est la grossesse. Et ça se diminue petit à petit, mais ça prend du temps.
En général, on se donne 3 à 6 mois après la grossesse avant de déclencher des examens plus importants. Il faut également s'assurer que vous n'êtes pas hypertendu, que vous avez un bon contrôle de votre pression artérielle, et puis ne pas trop manger de sel. Voilà.
Merci beaucoup pour vos conseils, professeur à Salimatou. Beaucoup d'appels, hein, pour vous. On va rester d'ailleurs en Guinée-Conakry avec Ibrahima. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Sandrine, comment allez-vous?
Très bien, merci. Et vous, avec vos calculs rénaux, racontez-nous.
Ok, au fait, je souffre des calculs rénaux depuis 2009. Au début, on pensait que c'était de la sorcellerie et consort, mais moi, au fait, j'y croyais pas. Je suis parti rencontrer un médecin, il a fait la radio, donc on a diagnostiqué, on a vu que j'avais des microlithiases rénales, et ça c'est depuis 2009. Ensuite, on m'a dit de boire beaucoup d'eau, j'ai fait cela, et par la suite, mais j'ai constaté chaque saison, presque ça revient. Au moment où je consomme beaucoup d'aliments gras et une forte consommation de lait, et au moment où aussi je fais moins d'activités physiques. Donc ma question est de savoir pourquoi cette réapparition est chaque année, ou chaque 1 an ou 2 ans, y a-t-il un moyen d'y remédier de façon définitive, ou y a-t-il une possibilité que mon rein soit atteint qui puisse entraîner une insuffisance rénale, ou est-ce que c'est une maladie héréditaire?
Merci beaucoup Ibrahima pour votre témoignage. Donc effectivement, il a noté hein, que quand il fait du sport, quand il boit beaucoup d'eau et tout ça, les calculs ne reviennent pas. Comment il peut faire pour éliminer totalement ces calculs, professeur Moulin?
Bah écoutez, ça c'est une question très compliquée que pose Ibrahima, hein, parce que il faut normalement essayer de poser un diagnostic sur sa maladie calculeuse, on va dire, sa maladie lithiasique. D'un point de vue pratique, et d'ailleurs il le dit bien, c'est quelque chose qui est un peu récurrent. Alors on peut se demander si c'est pas pendant les périodes de grande chaleur qu'il récidive ses calculs. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'une très bonne hydratation permet de prévenir la récidive des calculs. Si c'est des calculs qui sont faits de calcium, hein, notamment d'oxalate de calcium, on peut effectivement lui préconiser de réduire ses apports en calcium, notamment quand il dit prendre beaucoup de laitage. Voilà. Enfin, ma première recommandation, c'est quand même l'hydratation, notamment en période très chaude. Hein.
Alors, il évoquait peut-être sa peur d'une insuffisance rénale. Est-ce qu'on peut voir ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que le rein ne fait pas son travail? Comment on peut expliquer ça?
Alors, la peur de l'insuffisance rénale, elle est légitime, mais bon, disons que c'est pas parce qu'il a quelques calculs dans le rein qu'il va développer une insuffisance rénale. Bon, là, il peut prendre un avis auprès de son médecin et faire, là aussi, encore une fois, un dosage de la créatinine qui permet d'avoir la réponse sur l'insuffisance rénale. Alors, c'est sûr que l'insuffisance rénale, vous savez que le rein sert en fait à réguler les volumes hydriques de l'organisme. Il sert à réguler, entre autres, la pression artérielle, et puis qu'il a des fonctions endocrines, notamment, il sécrète la vitamine D active, donc qui permet la minéralisation des os. Il sécrète l'érythropoïétine, qui permet en fait la fabrication des globules rouges par la moelle osseuse. Et puis il fabrique aussi une dernière hormone qui est la rénine qui intervient dans la pression artérielle. Donc c'est sûr que la fonction des reins est capitale dans l'organisme et qu'une défaillance des reins va impacter sur toutes ces fonctions. Et la maladie rénale chronique aboutit à une détérioration du contrôle de la pression artérielle et de la régulation des volumes liquidiens.
Et si on ne fait rien, donc ça va jusque... Oui, comme c'est... Oui.
Et ben, quand la fonction rénale est à 10% de sa fonction normale, on est obligé de recourir aux traitements de suppléance que sont la dialyse ou la transplantation.
La dialyse qui est très coûteuse, on en parlera dans la deuxième partie puisque nous irons à Dakar. Et parlons de la transplantation aussi, c'est pas tant nouveau que ça. Il faut quand même savoir qu'on peut donner son rein de son vivant pour les greffes.
Oui. Alors bon, par exemple, en France, on fait 3500 greffes par an à peu près. Et sur ces 3500 greffes, on fait 600 à 700 greffes à donneurs vivants. Et on promeut cette approche puisque c'est celle qui donne les meilleurs résultats en termes de survie du greffon. Et j'ajoute que tout le monde peut se proposer de donner un rein à un proche, que ce soit un proche par des liens familiaux, mais aussi par des liens amicaux. La loi est relativement permissive sur ce plan. Et je rappelle qu'il suffit d'avoir 2 ans de lien d'affection stable et durable avec une personne pour éventuellement se proposer de lui donner un rein et lui permettre d'éviter le passage par la dialyse.
Parce qu'il faut savoir qu'on a 2 reins en fait.
Oui, on a 2 reins, exactement. On a 2 reins, on peut vivre très bien avec un seul rein. Ça se passe très bien. Et voilà, on n'a qu'un cœur et un foie. Mais la nature a bien fait les choses en ce qui concerne le rein. Il y a un rein de rechange.
Alors, on va terminer cette première partie en parlant des risques propres, effectivement, au sexe féminin, avec cette journée mondiale dédiée, effectivement, au rein et à la santé des femmes. Quels sont les risques propres au sexe féminin?
Alors les risques propres au sexe féminin, bon, d'abord y a les femmes sont exposées d'une manière générale aux mêmes risques que les hommes, mais elles ont en plus un certain nombre de pathologies, de maladies qui peuvent agresser leur rein. Alors je l'évoquais tout à l'heure, hein, les infections urinaires qui sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes, donc sont le plus souvent des infections urinaires basses hein, qui concernent la vessie, mais qui peuvent éventuellement remonter vers les reins. Dans ce cas-là, ça s'appelle une pyélonéphrite.
Ça, c'est vraiment c'est un mal typiquement féminin. Quelle en
oui,
est la
c'est
cause?
C'est beaucoup plus fréquent. Bah, une des causes potentielles, c'est le petit conduit entre la vessie et la peau, qu'on appelle l'urètre, par lequel s'écoule l'urine, qui est beaucoup plus court chez les femmes que chez les hommes, et par lequel les bactéries peuvent remonter.
Donc les germes remontent plus facilement jusqu'à la vessie. Il n'y a pas aussi une question d'habitude, par exemple, que le fait que les petites filles, on se retient plus facilement dès le plus jeune âge à l'école pour pas utiliser les toilettes ou des choses comme ça. Est-ce que ça peut jouer?
Ouais, non, je pense que essentiellement, on est dans les problèmes anatomiques et peut-être aussi hygiéniques, hein, puisque les femmes sont moins protégées de cette remontée des bactéries du fait de ce conduit particulièrement court entre la peau et enfin entre l'extérieur et la vessie.
Est-ce que les problèmes d'insuffisance rénale chez les femmes, par exemple, est-ce que ça peut entraîner des problèmes de fertilité?
Alors c'est sûr que la fonction rénale se dégradant, ceci a un impact sur les fonctions de reproduction et sur la fertilité. Et les femmes qui ont une insuffisance rénale sévère ont moins de possibilités d'avoir une grossesse. Cela étant, d'une part, même en dialyse, ça nous arrive d'avoir des femmes qui peuvent conduire des grossesses. Et puis surtout, une fois qu'elles sont transplantées, elles peuvent avoir une grossesse alors qu'elles sont transplantées. C'est un des grands avantages de la transplantation rénale.
Est-ce qu'on peut revenir sur les ennemis de nos reins, professeur Bruno Moulin?
Oui, alors le rein est exposé à beaucoup d'ennemis qui lui veulent beaucoup de mal. J'en citerai quelques-uns bien connus qui recoupent également les facteurs de risque cardiovasculaire que sont l'hypertension artérielle, le diabète, quand même très fréquent dans beaucoup de pays, les infections urinaires, je l'ai évoqué, l'automédication par exemple avec des médicaments toxiques pour le rein comme des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et puis également, il ne faut pas oublier le tabac. Le tabac, c'est mauvais pour le cœur, mais c'est pas bon pour le rein non plus. Voilà, il y a toute une liste de toxiques qui peuvent éventuellement être évités ou éventuellement contrôlés, qu'il faut savoir prendre en charge pour protéger ses reins.
Et c'est-à-dire que quand on a du diabète, il faut encore plus se faire dépister?
Ah, c'est obligatoire. 30% des patients diabétiques vont développer ce qu'on appelle une néphropathie diabétique, c'est-à-dire une maladie rénale diabétique, et sont exposés à évoluer vers la maladie rénale chronique terminale. Dans certains centres de dialyse, 40% des patients pris en charge sont des diabétiques. Donc il est essentiel qu'on est diabétique, d'avoir un dépistage de maladie rénale, et là encore de façon simple, par la méthode des bandelettes, voire des méthodes un peu plus sophistiquées quand on a les moyens. Mais c'est une atteinte extrêmement fréquente du diabète que d'avoir une maladie rénale.
Et est-ce que vous observez aussi un lien entre l'obésité et le fonctionnement du rein?
Absolument. Alors bon, déjà il y a des liens entre obésité et diabète. Et donc obésité plus diabète égale risque rénal majoré, mais l'obésité en elle-même peut être responsable d'une atteinte rénale, de lésions rénales, avec l'apparition d'une proténurie, d'une hypertension et éventuellement d'une dégradation de la fonction rénale.
Et par exemple, le fait de perdre du poids, vous observez que ça joue aussi directement sur le rein dans ce sens-là?
Absolument, absolument. Le régime, l'activité physique, chez ce type de patient, diabétique et obèse ou diabétique ou obèse, est essentiel pour contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire et les facteurs de risque rénaux, avec notamment un meilleur contrôle de la pression artérielle. Et la pression et l'hypertension artérielle est un facteur très agressif pour le rein.
Alors professeur Bruno Moulin, vous restez avec nous, on se retrouve après le flash dans 3 minutes. Je rappelle que vous êtes président de la société de néphrologie, vous travaillez au service de néphrologie et transplantation aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, et vous êtes donc en duplex de Strasbourg. On remercie encore les équipes de France Bleu Alsace pour vous accueillir. Vous continuez à nous appeler.
Priorité santé, Sandrine Mercier.
Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans Priorité Santé. On profite de la 13e semaine nationale du rein qui se déroule jusqu'au 10 mars pour parler des maladies rénales, très mal connues. On ne les voit pas arriver, elles opèrent en sourdine, mais le fait d'être diagnostiquées tardivement entraîne souvent des dialyses en urgence, alors qu'il est possible de les éviter. Comment se faire dépister? Comment agir avant qu'il ne soit trop tard? Quel type de prévention? On attend vos appels, vos témoignages au 33 1 84 22 75 75 et vos messages sur Facebook également. Pour vous répondre aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec le professeur Bruno Moulin, chef du service de néphrologie et transplantation aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, où vous êtes d'ailleurs en duplex depuis France Bleu Alsace, et vous êtes également président de la Société de néphrologie. J'ai oublié de vous dire que la Semaine du Rein est organisée par l'association France Rein et que cette année, donc le 8 mars, en plus d'être la journée mondiale internationale de la femme, c'est aussi la journée mondiale du Rein et que pour cette édition, eh bien, le thème retenu est celui du Rein et de la santé des femmes. Alors, avant de partir au Sénégal, juste une question autour du lupus, professeur Bruno Moulin, puisque les jeunes femmes sont vraiment une cible privilégiée. Est-ce qu'on peut parler de cette maladie?
Oui, c'est une maladie relativement fréquente et très spécifique à la femme, puisque elle concerne dans 9 cas sur 10 une femme. On pourrait résumer la définition du lupus comme un suicide immunitaire, c'est-à-dire que on produit des anticorps contre soi-même et notamment contre un certain nombre d'organes, dont le rein. Et le pronostic dans la plupart des cas du lupus se situe au rein, le pronostic vital. Et donc, il est très important au cours d'une maladie lupique de dépister une éventuelle maladie rénale.
Alors, on en a beaucoup parlé là sur les réseaux récemment avec l'opération, la greffe en fait de Selena Gomez, la chanteuse, actrice américaine, donc qui a beaucoup médiatisé sa récente greffe du rein sur Instagram.
Oui, bah il nous faut de temps en temps des acteurs et des actrices pour médiatiser nos actions en faveur des maladies rénales. C'est clair que on était dans une situation, alors je ne veux pas me prononcer sur sa situation personnelle, mais le lupus, ce qu'il faut dire à travers cette histoire, c'est que le lupus peut mener à la maladie rénale chronique terminale et à la nécessité d'une prise en charge en dialyse, voire d'une transplantation. Et ceci peut être largement évité si les patients sont bien suivis et si on détecte rapidement les signes d'atteinte rénale.
Alors, on va tout de suite partir au Sénégal où nous avons rendez-vous avec le professeur Abdou Niang. Bonjour, professeur.
Bonjour, Sandrine.
Merci d'être avec nous en direct de Dakar, donc au Sénégal, puisque vous êtes médecin colonel, chef du service de néphrologie de l'hôpital Dal Al Jam à Dakar, et vous êtes également président de la section Afrique de la Société internationale de dialyse péritonéale. Et vous connaissez le professeur Moulin qui est avec nous.
Oui. Oui, Sandrine, oui. Permettez-moi d'ailleurs de saluer vos auditeurs et mon cher collègue et ami, le professeur Bruno Moulin. Et effectivement, oui. Nous partageons la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation rénale.
Voilà. Bonjour Abdou, ça me fait plaisir de t'entendre. Et je découvre que tu es colonel en plus.
Voilà. C'est partagé. Voilà. Merci Bruno.
Alors le Sénégal, on peut dire que c'est un pays où il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que vous pouvez estimer l'ampleur des maladies rénales au Sénégal pour nous, professeur Abdou Niang?
Oui, absolument Sandrine. Vous savez, la prévalence de la maladie rénale chronique au Sénégal est estimée à 5%. Ce qui fait quand même plus de 600 000 personnes qui souffrent de cette maladie sur les 14 millions d'habitants. Et ce qui est dramatique, c'est que la grande majorité de ces malades ignorent la présence de ce tueur silencieux. Alors au Sénégal, l'hypertension artérielle, qui touche quand même 25% de la population, est la première cause de maladie rénale chronique avec le diabète. Et aussi nous avons une cause tout à fait particulière, c'est l'utilisation des médicaments toxiques traditionnels, qui occupe une place importante au Sénégal, et on a noté une multiplication du nombre de praticiens occupant systématiquement les médias et ouvrant des pharmacies traditionnelles dans les quartiers. Alors, Sandrine, chez nous aussi, nous avons une cause spécifique à la femme, comme vous l'avez demandé tout à l'heure, Et cette cause, malheureusement, n'est plus connue en France et dans les pays développés. C'est l'insuffisance rénale aiguë. Après l'accouchement, c'est au cours des hémorragies. Généralement, c'est des femmes qui accouchent à la maison ou qui sont mal suivies au cours de la grossesse. Et ce qui fait que c'est une importante cause de mortalité maternelle. Vous savez, aujourd'hui, en France, il y a moins d'une femme qui meurt pour 100 000 naissances vivantes. Mais malheureusement, dans nos pays en développement, nous sommes encore à 600 décès pour 100 000 naissances vivantes, ce qui est quand même extrêmement élevé.
Alors, professeur Abdou Niang, vous évoquiez effectivement que la grande majorité des malades ignorent leur maladie. Ça veut dire qu'en fait, ils ne viennent pas vous voir facilement.
Non, malheureusement, Sandrine, parce que justement, cette maladie rénale chronique, comme l'a évoqué mon collègue Dino, est sournoise. Elle ne se manifeste pratiquement par aucun signe jusqu'au dernier stade de la maladie. C'est tout l'importance du dépistage précoce, mais surtout pour les malades souffrant d'hypertension artérielle et de diabète.
Et alors, quelle prise en charge vous proposez au Sénégal?
Alors, au Sénégal, la particularité, c'est que nous recevons pratiquement la grande majorité des malades à un stade tardif. Les malades nous arrivent tous au dernier stade de la maladie et nous estimons environ 2000 nouveaux cas chaque année. Et nous proposons à ces malades l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Nous sommes pratiquement le seul pays en Afrique de l'Ouest qui le pratique depuis 2004. Et la transplantation n'est pas malheureusement encore disponible. Alors dans le contexte de l'insuffisance rénale aiguë, comme ces femmes dont je viens de vous parler, qui accouchent et qui cessent de faire fonctionner les reins, d'ailleurs, nous venons d'organiser à Dakar, en prélude du 3e congrès de la Société sénégalaise de néphrologie, un atelier qui a permis de former plus de 300 médecins, pédiatres et néphrologues à l'utilisation de la dialyse péritonéale, qui est une technique assez intéressante dans ce contexte aigu pour sauver la vie des femmes et des enfants, surtout dans des zones très éloignées où il n'y a pas tout ce dispositif-là. Et d'ailleurs, avec le soutien de sociétés savantes internationales, comme la Société francophone de néphrologie dialyse et transplantation du professeur Bruno Moulin.
Il y a combien de centres de dialyse au Sénégal?
Alors là, actuellement, nous avons environ 13 centres de dialyse. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au Sénégal, il y a eu une politique très volontariste dans l'implantation de centres de dialyse. Et il y a déjà 20 nouveaux centres qui sont actuellement en train d'être ouverts. Et à l'occasion de la Journée mondiale du Rhin, nous allons inaugurer deux nouveaux centres, dont un à l'hôpital militaire de Wakam et un deuxième à l'hôpital régional de Thiès.
Et alors vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez surtout dans la prise en charge de ces pathologies? Parce que c'est vrai que l'accessibilité, c'est pas aisé quand on habite loin.
Oui, Sandrine, c'est le grand problème au Sénégal. Nous avons effectivement un problème d'accessibilité financière et géographique. D'abord, la demande en dialyse est supérieure à l'offre, d'où par exemple l'existence de listes d'attente chez nous. Et le traitement est extrêmement coûteux aussi. Imaginez qu'un malade doit dépenser environ 9 millions de francs par an, ce qui fait environ 15 000 euros, pour vivre chaque année supplémentaire. Alors, des efforts importants quand même ont été faits par l'État, parce que nous avons pu avoir la prise en charge de l'État pour l'hémodialyse et la dialyse péritonéale dans le secteur public. Bon, maintenant, le maillon faible, naturellement, dans notre pays, ça reste la prévention, ciblant ces maladies rénales chroniques à son écouteux.
D'accord, des problèmes de prévention. Donc, votre message à faire passer, je dirais, pour toute la population, vous voulez insister sur quoi?
Ah oui, absolument, Sandrine. Je crois que, vu l'étendue de la tâche, il faudrait surtout faire de telle sorte que ceux qui ne sont pas malades, ceux qui ne souffrent pas de maladies rénales chroniques puissent échapper à cette maladie vraiment très difficile à prendre en charge. D'abord, c'est des mesures simples, des mesures d'hygiène de vie. Et vous savez, au Sénégal, nous consommons énormément de sel et nous appelons la population à réduire la consommation de sel, de sucre, mais aussi d'huile, parce que ça, ce sont des habitudes socio-culturelles dans nos pays. Alors, on encourage l'activité physique régulière. Le professeur Bruno a insisté sur l'arrêt du tabac, mais aussi pousser les malades, surtout les hypertendus et les diabétiques, à faire un dépistage annuel de la maladie rénale chronique. Alors nous conseillons fortement aussi aux femmes enceintes dans nos pays à avoir un suivi prénatal régulier par des consultations mais aussi le drame chez nous, c'est, il faut le combattre, c'est l'utilisation des médicaments toxiques traditionnels qu'il faudra éviter parce que malheureusement, ça fait des dégâts énormes dans la population.
Alors, merci beaucoup pour votre participation, professeur Abdou Niang. Le professeur Bruno Moulin, vous voulez peut-être réagir. Vous connaissez le Sénégal, vous connaissez le Tchad aussi. Vous y étiez en mission, en tout cas, il y a un mois, Bruno Moulin.
Oui. Alors, en fait, je voudrais tout d'abord féliciter, en fait, l'équipe néphrologique sénégalaise qui est largement menée par Abdou Niang et qui, comme ça a été évoqué, a mené une action quand même très forte et très dynamique vis-à-vis de la prise en charge de la maladie rénale et qui se situe largement en avant par rapport à beaucoup d'autres pays de la région. Par exemple, j'étais au Tchad effectivement il y a un mois et la situation est pire, c'est-à-dire qu'au Tchad il y a 15 millions d'habitants comme au Sénégal et il y a en tout 3 néphrologues et 2 centres de dialyse avec 30 à 40 postes de dialyse en tout et pour tout. Donc il y a énormément à faire dans ce pays, comme probablement dans beaucoup d'autres pays de la région. Et encore une fois, le Sénégal, avec la création également d'une école de formation, à la fois pour les généralistes, mais également pour les néphrologues de l'Afrique de l'Ouest, est à mon avis un pionnier dans la prise en charge et le développement de la néphrologie en Afrique.
Alors, merci beaucoup, professeur. On va remercier le professeur Abdou Niang, donc médecin colonel, je rajoute, puisque chef du service de néphrologie de l'hôpital Dalal Jam à Dakar au Sénégal, également président de la section Afrique de la Société internationale de dialyse péritonéale.
Priorité santé. Sur RFI.
Et dans Priorité Santé, aujourd'hui, on parle des maladies du rein. Et alors, on a fait un tour, on est au Sénégal. Vous nous avez dit au Tchad, effectivement, toutes les difficultés, hein, avec un nombre de néphrologues si réduit, seulement 3 pour tout le pays, 15 millions. Et là, on va partir à Bamako, puisqu'il y a aussi Soumalia Diawara, qui nous appelle de Bamako, au Mali, et qui est aussi néphrologue dans une polyclinique à Bamako. Bonjour.
Oui, bonjour madame.
On vous écoute.
Très bien, je suis effectivement docteur Soumaïla Diawara, je suis néphrologue à la polyclinique Guindo de Bamako. Par rapport à la journée internationale des reins qui sera organisée le jeudi, nous aussi nous nous sommes associés effectivement pour organiser une grande manifestation avec la mairie de la commune 6, une manifestation qui aura lieu le jeudi, comme je l'ai dit matin, avec l'organisation des 2 manifestations phares. D'abord, il y aura une grande conférence débat que je vais animer avec mes collègues, bien sûr, en français et en bambara. En bambara, c'est un peu la langue qui est la plus parlée au Mali, avec des questions-réponses avec la population. Et ensuite, il y aura le dépistage c'est-à-dire que la mesure de l'hypertension artérielle chez les personnes qui seront présentes, bien sûr, et l'examen des urines à la recherche d'une proténurie avec les bandelettes urinaires. Et je crois que cette action va nous permettre franchement de dépister pas mal de malades. Et par rapport à tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs, le professeur Bruno Moulin et le professeur Niang, que je salue d'ailleurs du passage, pour nous, en fait, je crois que la prévention apparaît comme un enjeu majeur par rapport à l'insuffisance rénale. Je ne reviendrai pas sur les causes et tout ce qui a été dit parce que déjà à peu près le Mali est frontalier au Sénégal, donc à peu près les tableaux sont similaires. Au Mali aussi, nous sommes en train de faire pas mal de choses. Je me rappelle en 2008, il n'y avait que 3 ou 4 néphrologues au Mali. Mais depuis 2008 jusqu'à maintenant, on a environ une quinzaine de néphrologues qui ont été formés ici au Mali. Donc c'est vraiment un effort a été fait dans ce sens-là.
Donc le combat voilà, n'est pas gagné, mais on voit à quel point effectivement ça avance quand même bien. Merci beaucoup, docteur Diawara, de nous avoir contacté depuis Bamako. Il y a effectivement, on entend ce besoin de faire de la prévention, du dépistage. Peut-être professeur Bruno Moulin, pouvez-vous nous dire pour voir quelles sont les populations les plus exposées, quand même celles qui doivent vraiment en priorité aller faire ce dépistage.
Alors les populations les plus exposées, on l'a déjà évoqué, hein, c'est avant tout les diabétiques, les hypertendus de longue date, les obèses, les patients qui ont des maladies lithiasiques, c'est-à-dire des calculs à répétition, les femmes qui font des infections urinaires fébriles, c'est-à-dire des pyélonéphrites, les patients qui ont dans leur famille des sujets qui ont des maladies rénales chroniques, qui sont éventuellement pris en charge en dialyse. Bref, tout un large panel de la population qui doit bénéficier du dépistage. Alors, en fait, faut distinguer prévention et dépistage. Prévention, c'est pratiquement une action de santé publique. Là, on a évoqué en Afrique le problème des médicaments néphrotoxiques et traditionnels, voilà, qui sont très particuliers. Et au Tchad, effectivement, j'ai vu ce type de situation. Et puis également la meilleure prise en charge. Alors on a évoqué ça aussi, j'ai vu ce type de situation dramatique au Tchad, la bonne prise en charge de l'accouchement avec notamment la prévention des hémorragies autour et après l'accouchement qui éventuellement peuvent être dramatiques en ce qui concerne la fonction rénale. Et puis le dépistage qui permet d'aller dans des populations éventuellement ciblées, détecter une maladie rénale à son début. Et là encore, c'est ce qui est important, c'est que si on détecte une maladie rénale à son début, on ne se retrouve pas dans une situation inéluctable de progression vers la maladie rénale terminale. Oui. On peut stabiliser les choses et voire mettre les malades en rémission. Donc il est vraiment important de développer le dépistage.
Alors vous parliez effectivement d'un, si on ne fait pas de dépistage, eh bien on arrive à un stade avancé. C'est le cas de Saliou là qui nous appelle de Boïkon au Bénin. Bonjour Saliou.
Oui, bonjour.
Merci pour votre appel et on va prendre votre témoignage puisque vous êtes justement sous dialyse. On écoute votre témoignage.
Oui, je suis sous dialyse depuis 12 ans. Ça a commencé avec l'hypertension qui n'a pas été bien traitée. Finalement, en 2006, j'ai commencé la dialyse. Mais mes problèmes maintenant, j'ai des complications, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Et j'aimerais savoir si c'est lié à cette dialyse-là.
Alors, il y a le professeur Moulin qui vous écoute.
Oui. Oui, c'est tout à fait possible. Alors, d'abord, je vous demande, vous êtes dialysé deux fois par semaine, trois fois par semaine?
Oui, je suis dialysé deux fois par semaine. Ici au Bénin, les dialysés sont dialysés deux fois par semaine, faute de moyens de les faire arrêter. On fait 5 heures.
Donc vous faites deux fois 5 heures, donc ça fait 10 heures en tout par semaine. Ouais.
Ouais. Ce qui est bien, hein, c'est sûr. Bon, idéalement, c'est 3 fois 4 ou 5 heures, mais déjà 2 fois 5 heures par semaine, c'est bien. C'est sûr que la dialyse peut être associée à un certain nombre de complications qui s'expriment dans le temps. Les patients peuvent rester hyper tendus parce qu'on leur soustrait pas suffisamment d'eau pendant la dialyse. Ils peuvent avoir éventuellement des complications, alors par exemple de douleurs articulaires parce qu'ils ne sont pas suffisamment épurés. Tout ça est un petit peu compliqué de loin à la radio à débrouiller, mais peut-être pouvez-vous en parler avec le médecin qui s'occupe de vous en dialyse pour qu'il affine un peu les paramètres de la dialyse. Voilà, mais effectivement, ça peut être une complication à long terme observée chez les patients dialysés.
Alors, merci beaucoup, Saliou, pour votre témoignage. Expliquer en deux mots ce qu'est une dialyse, professeur Moulin.
Bon, la dialyse, en fait, il y a deux types de dialyse. Il y a ce qu'on appelle l'hémodialyse qui consiste à prendre du sang en piquant les patients dans une grosse veine et qui permet en fait de passer ce sang sur un ce qu'on appelle un dialyseur, hein, qui va permettre d'épurer le sang. On met le sang au contact d'un autre liquide qui s'appelle le dialysat et qui va permettre d'épurer le sang des déchets métaboliques et de soustraire de l'eau que le patient a retenu en trop. Et puis le sang est retourné au patient et tout ceci est une opération qui dure 4 à 5 heures et qu'on réalise en général 3 fois par semaine. Et l'autre type de dialyse, c'est ce qu'on appelle la dialyse péritonale, qu'évoquait Abdou Niang tout à l'heure, qui est une technique qui permet en fait de laisser le patient à domicile avec un petit cathéter qu'on met dans le ventre. On instille un liquide dans le ventre qu'on laisse reposer pendant 3-4 heures et ensuite on récupère ce liquide. Entre temps, ce liquide s'est chargé des déchets métaboliques et éventuellement du surplus en eau du patient. Donc dialyse péritonale d'un côté et puis hémodialyse de l'autre, avec des nécessités techniques relativement lourdes, en tout cas en ce qui concerne l'hémodialyse, qui explique la faible diffusion actuellement dans les pays en voie de développement.
Oui, parce qu'en plus Saliou disait, lui il est obligé d'aller à Cotonou quand même, donc c'est deux fois par semaine pour faire sa dialyse.
C'est dans ces pays c'est terrible. Quand vous voyez qu'au Tchad par exemple il y a que 200 de dialyse à N'Djamena, ça veut dire que ce pays qui est vaste comme 3 ou 4 fois la France, il y a des malades qui sont très isolés, qui peuvent pas être pris en charge.
Alors beaucoup d'appels hein, pour vous, professeur Bruno Moulin. Merci hein, d'être aussi réceptif à nos auditeurs. Il y a maintenant Kourouma qui nous appelle de Conakry en Guinée. Bonjour Kourouma.
Bonjour, priorité santé et toutes les équipes.
Merci de nous appeler, on vous écoute.
En fait, j'ai fait une dialyse depuis 2016, du côté gauche, par suite de la formation des cristaux dans le sang. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les mesures de rétention d'une éventuelle évolution de la maladie. Et deuxièmement, quels sont les moyens de traitement efficaces afin que cette maladie soit... n'évolue pas à un pas progressif. C'est ma question.
Merci pour votre question, Kourouma. C'est le professeur Bruno Moulin qui vous répond.
J'ai pas très bien compris parce qu'on a été coupé à un moment donné. Ce qui s'est passé du côté gauche de votre... si vous pouvez répéter votre question.
Je fais une dialyse au niveau de mon rein gauche suite à la formation des cristaux. J'aimerais savoir quelles sont les mesures de rétention afin d'une éventuelle évolution de la maladie. Et deuxièmement, quels sont les moyens appropriés afin de préconiser un moyen de traitement.
Alors si vous êtes pris en charge en dialyse depuis 2016 et que vous êtes dépendant de la dialyse, à moins de pouvoir bénéficier à un moment donné d'une transplantation rénale, malheureusement, l'avenir reste la dialyse, hein, puisqu'on est dans une situation de maladie rénale chronique et il n'y a pas de réparation des lésions rénales. Hein, ceci est à bien distinguer de ce qu'on appelle l'insuffisance rénale aiguë, qui est une défaillance brutale des reins suite éventuellement à une agression de type choc hémorragique ou éventuellement d'un choc septique. Donc dans ces cas-là, on a besoin d'une dialyse pendant 15 jours, 3 semaines, et ensuite les reins récupèrent. Donc les deux situations sont différentes, et j'en profite pour dire que actuellement la Société internationale de néphrologie a un programme qui s'appelle 0 by 25, c'est-à-dire que en clair ça veut dire plus de morts liées à l'insuffisance rénale aiguë en 2025, notamment dans les pays en voie de développement. Et pour ce faire, elle essaye de développer justement la dialyse péritonéale, qui est une méthode relativement simple à mettre en place et qui permet à ces patients qui ont des insuffisances rénales aiguës, notamment les patients jeunes, beaucoup de patients jeunes développent des insuffisances rénales aiguës en Afrique, de passer ce fameux cap des 15 jours, 3 semaines où on a besoin de dialyse.
Alors justement, je voudrais terminer avec Joy qui nous attend à Kinshasa et qui est concerné par son enfant, son jeune enfant. Bonjour Joy, on vous écoute, posez votre dernière question.
Bonjour Sandrine, bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé. Mon fils a 20 ans, Il a des infections urinaires qui datent maintenant de 3 ans. Donc on a essayé de parcourir tous les hôpitaux. Au début du traitement, il peut avoir amélioration, mais à la fin, il revient. Il y a une période où il avait même du sang lorsqu'il urine. Mais ces derniers temps, il est encore sous traitement. Mais il y a des fois qu'il a mal au bas-ventre. Il a vraiment même difficulté à marcher. C'est comme ça que je me demandais est-ce qu'il peut s'agir maintenant d'une infection rénale et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Parce que je ne sais plus où trouver la solution.
Mais oui, c'est déjà des ou quoi. Après une infection urinaire, donc qui dure maintenant à peu près depuis 3 ans. Merci Joy pour votre témoignage. On va terminer avec cette question, professeur Moulin.
Bah là encore, c'est une question difficile, mais je pense que si votre fils a maintenant 15 ans et qu'il a une infection urinaire, peut-être récidivante depuis plusieurs années, on est confronté à un problème urologique. Et le mieux serait de consulter, donc si vous êtes à Kinshasa, peut-être un service où on s'occupe des malformations rénales et des voies urinaires, notamment en urologie, pour essayer de voir s'il n'a pas une anomalie, notamment entre la vessie et les reins. Il suffit de faire un examen radiologique relativement simple qui expliquerait ces infections urinaires, éventuellement avec de la fièvre, qui expose à la destruction des reins. Voilà.
Merci beaucoup Bruno, professeur Moulin, d'avoir répondu à toutes les questions de nos auditeurs très concernés effectivement par les maladies des reins. Merci beaucoup pour avoir été avec nous en direct.
Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir et d'avoir la parole à l'occasion de cette journée mondiale du rein, cette semaine nationale des maladies rénales.
Organisée par l'association France Rein.
France Rein qu'il faut féliciter de son investissement dans cette action. C'est très important, on est toujours en lien avec eux, c'est des gens formidables.
Merci beaucoup, merci à toute l'équipe et demain avec Caroline Paré, comment dialoguer entre les générations, entre parler de sexualité ou de contraception. À demain.
Je vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Sous nos assurances, notre métier, l'assurance.